des thèmes différents. À la fin, je me suis concentré sur le sujet dont je vais vous parler, que c'est les rapports à la démocratie ancienne dans la philosophie politique, dans trois philosophes françaises, mais pas seulement, et les rapports à la philosophie ancienne et tout spécifiquement à la démocratie athénienne dans les années 70-80. Et les philosophes sont surtout Foucault, Cornelius Castoriadis et Jean Rancière. Donc voilà ce que je vais faire, parce que bien sûr j'étais aussi très intéressé par le côté, on peut dire, épistémologie des sciences sociales des colloques. Tout au début de mon exposé, je vais vous présenter les contextes intellectuels que je vais analyser. Et je vais faire une petite réflexion sur quels sont les apports du métier des sociologues que je crois qu'on peut mettre en avant pour faire une approche différente des rapports, une apport différent du rapport de Foucault, Castoriadis et Rancière à la philosophie ancienne. Je ferai aussi petite question autour de la continuité entre les métiers des sociologues et un type d'épistémologie passéronien, postérieur aux métiers des sociologues, dont je crois qu'on peut trouver la cohérence. Donc, ça serait mon entrée dans le sujet. Et après, je vais vous montrer en quoi une approche comme la mienne peut se revendiquer d'un style de raisonnement spécifique autour des trois principes de la théorie de la connaissance sociologique qui ont été formulés au métier des sociologues et qui après ont été récupérés et recodifiés par Passeron, et qui sont la construction d'objets, c'est-à-dire le travail avec des modèles qui étaient question de l'intervention qui m'a précédé. Les principes de non-transparence, en quoi ces principes peuvent nous aider à développer d'autres types de questionnements sur les textes philosophiques et sur les trajectoires philosophiques, et les principes d'expliquer le social par le social, c'est-à-dire les principes antinaturalistes spécifiques du métier des sociologues, qui, dans la sociologie des productions intellectuelles et tout spécifiquement dans la sociologie de la philosophie, peut jouer un rôle pour produire des opérations d'enquête et des formes d'établissement des chaînes de sens entre les textes et la production des textes différentes. Donc voilà, si j'aurais du temps, je dirais pourquoi c'est tout à fait salutaire, et même pour la philosophie, une approche inspirée pour la sociologie de la philosophie, mais peut-être je n'aurai pas le temps. Donc voilà, qu'est-ce que c'est cet intérêt à la démocratie athénienne? Je crois qu'on peut souligner trois pointes, très résumées. D'une part, on voit la présence parallèle dans le temps d'un travail sur la démocratie ancienne et son signifié pour le présent chez des philosophes qui ont été importantes dans la philosophie ou dans la pensée française des années 70-80. Foucault, Castoriadis, ils consacrent tous les deux au même temps et des séminaires sur la démocratie ancienne de les années 82. Et voilà une question importante, parce que ni Foucault, il l'avait fait dans son, il avait fait une entrée déjà dans la philosophie ancienne dans son premier cours au Collège de France, ce qui était très significatif aussi. Je reviendrai si j'ai le temps. Donc, mais chez Castoriadis, jusqu'au moment, sauf certaines références érudites aux principes démocratiques dans le monde ancien, la présence du monde grec n'était pas importante. Si on parle de l'autre philosophe dont je vais parler, Raja Rancière, il faut attendre en 1982, au moment, si je ne me trompe pas, de la publication de sa thèse de doctorat, pour qu'il produise un autre livre très polémique envers la sociologie de Pierre Bourdieu, Le philosophe et ses pauvres, où les deux premiers chapitres sont consacrés à montrer comment la sociologie trouve ses racines dans un discours antidémocratique produit par Platon contre les sophistes. Donc, première chose importante, dans les années 80, trois philosophes qui n'étaient pas spécialistes du monde ancien ont bien considéré important de se consacrer à l'étude de la philosophie ancienne. Il faut se demander pourquoi ça arrive. Et voilà, et ça produit aussi ça peut produire aussi des idées assez stimulantes sur quel est le statut d'un philosophe et pourquoi dans ce statut d'un philosophe il faut toujours avoir quelque chose à dire sur la philosophie ancienne qui fonde la discipline. Il y a une phrase de Foucault, peu avant de mourir, parce que c'est 22 février 1984, où il dit il faut qu'un professeur de philo fait un cours sur Socrate au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, il le dit, je viens de le faire, donc je peux mourir tout en étant prof de philo. Avant de faire un cours sur la mort de Socrate, on n'est pas du tout prof de philo. C'était une chose assez drôle et très bien vue, je trouve, et un peu émouvante, tout en sachant que Foucault savait déjà que sa mort était prochaine. Donc voilà, il y a une conjoncture intellectuelle importante, c'est le deuxième point intéressant, qui est lié dans les années 70-80 à la crise du marxisme. Et voilà, on pourrait se demander si chez ces trois penseurs qui ont eu un rapport étroit, bien que toujours très compliqué et très polémique envers le marxisme, parler de la philosophie ancienne, c'était pas une manière, c'est imposé par l'état du champ de continuer avec des préoccupations antérieures. Pour ça, je crois que la lucidité est présente chez certains d'eux. Par exemple, Jean Sierre dit, dans les années 80, avec l'entrée massive d'Anna Arendt dans le monde philosophique et politique français, et de Léo Strauss aussi, il fallait, pour parler des classes sociales, de se référer aux auteurs anciens, par exemple, de parler des Aristote. Donc, il était présentable de parler des luttes des classes, tout en faisant un commentaire de la politique d'Aristote, mais il ne fallait pas du tout citer Marx. Donc voilà, une chose très importante, la philosophie ancienne est un rapport spécifique à la philosophie ancienne, une manière spécifique, assez contextuelle, d'utiliser la philosophie ancienne, c'est une manière de se confronter à la crise du marxisme et aussi à l'éclosion des paradigmes de démocratie délibérative dans la philosophie politique. D'une part, ça a produit une substantialisation, une identité très forte pour une philosophie une politique coupée du social et coupée du marxisme. Et l'agent fondamental, c'était un ancien philosophe qui venait aussi du marxisme, qui était Jürgen Habermas, avec la théorie des agents communicationnels. Il ne faut pas oublier que Foucault fait un cours sur ce qu'il appelle le rectangle du franc-parleur de la démocratie ancienne. Il fait une analyse assez vite, mais toujours intelligente, bien qu'on peut le discuter, des trois discours de Périclès dans l'Assemblée athénienne. Et il nous montre comment fonctionnait la prise de parole dans le monde ancien, au moment où, invité par Paul Bain, Jürgen Habermas faisait son cours au Collège de France. C'était le cours où il allait sortir un grand livre qui s'appelle Le discours philosophique de la modernité, où il y a des critiques énormes envers Foucault et des louages d'ailleurs envers Catoriadis. Donc voilà, c'était le deuxième point important, c'était une modification, on peut dire, de l'état des champs et de ce qui était recevable du point de vue philosophique pour être identifié comme philosophe et pour exprimer certaines pulsions politiques. Les pulsions politiques ne pouvaient plus s'exprimer en parlant de l'autogestion chez Castoriadis. Il fallait parler des formes institutionnelles de la démocratie ancienne chez Athènes. Donc, troisième point, il aurait toujours, on peut dire, des innovations philosophiques spécifiques qui sont sorties de ces trois approches. Par exemple, il y a une notion de anachronie envers l'anachronisme développé chez Rancière qui a son intérêt. Et il y a je peux l'expliquer après. Il y a une notion très importante aussi des germes comme théorisation de qu'est-ce qu'il peut persister du point de vue historique du passé, utilisé par Castoriadis pour rétablir des liens dont il disait dans les couleurs, quand on parlait qu'il était parfois très fantastique, entre formes de résistance et d'autonomie qui passaient de la Grèce ancienne jusqu'à l'autogestion ouvrière moderne. Et il y a des formes aussi d'élaboration des morales non normatives qui ont été produites par Foucault. Donc et voilà. Et pour l'entrée dans les sujets dont je vais vous parler. Voilà, quelles sont les idées des matières de sociologues qui me semblent intéressantes et mobilisées pour tenter d'expliquer quelle serait mon approche si je le ferais bien, voilà. Si je le ferais bien. Et je le fais mal et peut-être je ne suis pas l'auteur des principes, mais je crois que les principes sont quand même intéressants. Ces trois principes ont été sont présents au matière des sociologues, mais ont été conceptualisés par Passeron dans un article postérieur des années 90 qui s'appelle « De la pluralité théorique en sociologie », où il fait un retour sur les matières des sociologues. Il y a trois principes importants et je vais ajouter un quatrième principe passeronien, mais je vais laisser de côté les principes passeroniens et je vais me concentrer dans les trois principes dont il parle. Le premier principe, c'est la critique de l'empirisme. Et de l'empirisme plate. Et c'est, dans les matières de sociologues, il y a une formule assez fortunée pour parler de cet empirisme qui n'est pas un vrai empirisme du point de vue philosophique. C'est un empirisme spontané, c'est un empirisme spontané des sociologues et qui suppose la dissolution du sociologue devant les données. Donc l'empirisme, une forme d'empirisme qui n'est pas l'empirisme du point de vue de la philosophie des sciences du XXe siècle, c'est la dissolution des sociologues devant les données. On va voir après qu'est-ce que ça peut donner pour les textes de philosophie. La deuxième chose importante, c'est la différence entre une théorie de la connaissance sociologique et une théorie du système social. Voilà, il y a des formes spécifiques de faire de la sociologie et qui ne supposent pas qui ouvrent un espace de formes diverses d'interprétation et de conceptualisation. Mais il y a une espèce de condition de possibilité de l'entrée dans les champs sociologiques à partir de certains principes. Et ces différents principes peuvent produire de manière différente des conceptualisations dites sociales qui sont recevables. Sans ces principes-là, ces formes de conceptualisation dites sociales, tout simplement, sont hors la sociologie. Un exemple, le naturalisme et le naturalisme quand on fait de la sociologie de l'éducation. Voilà, il y avait un morceau dans la reproduction, on disait, voilà, on ne dit pas que l'intelligence n'existe pas, mais on demande le droit de poser les questions sociaux jusqu'au moment où on doit s'arrêter. Ce n'est pas un pari ontologique qu'on fait, c'est un principe d'enquête sociologique de poser que les inégalités sont dues à des questions sociales comme principe d'enquête, même si on sait qu'il peut y avoir un moment où on s'arrête et on dit que le social ne peut plus expliquer ou on ne sait pas comment on doit le faire. Voilà un principe d'entrée. Et si on dit voilà les différences sont des différences qui viennent de questions neurologiques ou d'autres formes de positions naturalistes, tout simplement on ne dit pas c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est pas la question, peut-être c'est vrai, mais c'est pas la sociologie. C'est une autre approche. Voilà. Si on fait de la sociologie, on se demande les questions sociales. Sinon, on s'arrête, on fait de la philo, on fait une autre chose, de la neurosciences ou on voit. Et voilà, la troisième question importante, c'est contre l'idée d'un type de canon sociologique spécifique et normatif. Et voilà la possibilité de formes différentes de conceptualisation sociologique plus globale, de théorie du système social plus globale. Voilà un modèle intéressant, c'était aussi dans la reproduction, qui est un livre qui a eu très mauvaise fortune dans sa postérité, mais où on disait Marx, Durkheim et Weber sont pas cumulables, mais chacun donne avoir des choses que l'autre ne donne pas avoir. Et ce qui est intéressant, c'est un principe de stimulation de la théorie sociologique à partir des principes d'enquête qu'on ne doit pas résoudre dans un bâtiment cohérent, dans un édifice cohérent où toutes les formes de système social sont assumées. Voilà très aspect important des métiers de sociologue pour mon travail. Je rentre dans les thèmes spécifiques et voilà. Quand on se confronte à des textes philosophiques, on se confronte à des textes sacralisés par une institution très importante, administrée de manière scolaire, que c'est l'institution du commentaire. Ce qu'on a quand on a un canon philosophique, ce sont des personnes qui sont plutôt entraînées dans la lecture canonisée, dans les commentaires des textes. Et voilà, c'est une forme d'empirisme tout particulière, parce que ce qu'on demande aux sociologues, c'est de s'annuler quand elle débat les textes. Sur la critique toujours qu'on trouve quand on fait une histoire sociologique de la philosophie ou une histoire sociale de la philosophie qui n'est pas concentrée dans les commentaires des regroupements, on dirait indigènes, les écoles, les grands auteurs, etc., c'est de se dire et on rate le texte, on rate le contenu. On rate les contenus parce qu'on plaque une théorie préalable qui n'enseigne rien sur les contenus. Donc voilà, c'est la forme spécifique que l'empirisme a dans le travail sur les textes philosophiques. Et bien que la plupart des philosophes qui défendent ça et ne sont pas empiristes, ils protestent contre l'empirisme, mais c'est une forme d'empirisme spécifique tel qu'il était conceptualisé dans les matières de sociologue. Donc, première chose importante, il faut lire les textes selon les regroupements exigés par les canons. On peut voir des écoles, on peut voir des auteurs, on peut confronter les auteurs, les confronter les écoles, dire si un auteur dépend d'une école ou d'une autre, tout ça est recevable, mais pas la lecture qu'on peut faire du point de vue sociologique. Deuxième chose importante, c'est que l'œuvre est transparente aux philosophes. L'œuvre est transparente aux philosophes, et voilà. Et ça questionne un principe très important du métier de sociologue qui était le principe de non-conscience. Le principe de non-conscience supposait que les gens n'ont pas, on peut dire, toutes les clés entre leur logique subjective d'agir et les effets qu'ils produisent. Passeron dit que ça vient de Pareto, d'une forme de rapport entre la logique subjective et objective chez Pareto, mais on peut le trouver bien sûr chez Marx. En tout cas, ce qui est important, c'est de dire même les savants sont incapables de voir ce qu'ils font quand ils écrivent des textes. Et troisième chose, c'est le principe d'expliquer le social par le social qui est contre le modèle d'innaturalisme. Le modèle d'innaturalisme prend une forme assez particulière dans les champs philosophiques qui est le modèle du génie. Il n'y a rien à expliquer de pourquoi un philosophe est si intelligent que ça. Tout simplement, il l'est. Et en fait, les formes encomiastiques des références aux auteurs philosophiques sont très rares dans d'autres manières de se rapporter au thème de recherche. Voilà, il y a toute une panoplie d'éloges qu'il faut faire quand on parle d'un philosophe et qui sont liés à l'idée qui rien n'explique pourquoi ce philosophe est devenu le centre de l'admiration collective. Donc, comment on peut faire d'une autre manière? Pour les modèles dépendant sur la question spécifique de la démocratie ancienne, et je crois qu'il y a des manières de faire différentes. Il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, que c'est le livre d'une anthropologue du monde ancien qui vient de l'école de Paris, de Jean-Pierre Bernard et Pierre Vidal-Naquet, qui est Nicole Leroux, qui s'appelle L'invention d'Athènes. Le livre L'invention d'Athènes, c'est une étude sur l'épitaphe, sur les orations funèbres de Thucydide qui serait commenté par Foucault et par Castoria di Sale à l'époque, dans ses cours spécifiques, où il se demande, dans l'oration funèbre et dans toutes les formes d'orations funèbres et d'épitaphes qu'il y en a du monde ancien, quels sont les contenus de la démocratie qui sont présents. Par exemple, il présente les salaires qu'on donnait aux jurés, aux participants dans l'Assemblée, oui ou non. Il était présent et l'idée de rotation, oui ou non. Il était présent la participation massive, ou il était plutôt présent et le leader de l'opinion publique ou de la cité. Voilà. Avec ça, avec ce type de comparatisme, on peut avoir, quand on analyse les rapports de nos trois auteurs à la philosophie ancienne, et d'autres auteurs possibles aussi, et la manière où on fait le tri de certaines propriétés de la démocratie ancienne en fonction d'un projet politique ou conscient ou inconscient. Par exemple, je vous mets un exemple. On peut lire tous les pages de Foucault sur la démocratie ancienne. Jamais il sera question ni de tirage au sort, ni de rotation, ni de les salaires publics pour la participation. Il n'y a pas un mot. Bien sûr, il n'y a rien sur les inégalités sociales. Et même s'il parfois utilise des exemples où on voit une personne d'origine assez humble ou assez moyenne qui fait une intervention importante dans un espace démocratique, c'est la dernière intervention d'Oreste de l'œuvre d'Euripide, où c'est un paysan qui allait tréper à l'Assemblée, etc. Il ne dit pas que ça montre comment il était répandu, on peut dire, des formes de participation hors les élites. Par contre, si on regarde de Castoriadis, on voit le contraire. C'est-à-dire, le poids de l'analyse est mis sur la présence d'itiras au sort, c'est-à-dire des mécanismes spécifiques qui empêchent ou qui difficultent l'institutionnalisation des élites et des formes de distribution sociale liées à la participation politique. Donc Castoriadis dit qu'ils sont très importants pour comprendre comment la démocratie athénienne et puis devenir quelque chose à la main des gens d'origine sociale assez faible. Donc voilà, c'est pas dire Castoriadis a raison ou Rancière qui a d'autres propriétés. Dans le cas de Rancière, c'est différent parce que c'est après l'ouvre de Bernard Manin, le principe de gouvernement représentatif, qu'il a commencé à développer. Mais c'est qu'on peut dire Castoriadis n'a pas raison ou Foucault n'a pas raison, non. C'est dire Athènes est construite de manière différente selon des projets politiques assez différents, que dans un espace de très pertinent de la démocratie, on était choisi selon une manière de voir spécifique. Donc ça amène au deuxième principe, que c'est le principe de non-transparence. C'est-à-dire voilà, ce qu'on peut voir quand on fait un cadre et quelles sont les propriétés qu'on était soulignées par un auteur, c'est que, pas toujours, même si on considère que l'auteur est caché certaines choses, bien par méconnaissance, bien par intérêt politique, ou je ne sais pas quoi, et c'est que l'auteur n'est pas toujours capable d'être lucide dans son rapport à son objet. Donc voilà. Ça produit un effet énormément, c'est mon petite expérience, énormément difficile dans les types de commentaires qu'ont fait des philosophes. Où ils sont toujours des commentaires, ou la plupart, ou une bonne partie d'eux, ce sont des commentaires où on analyse et à la fois on témoigne l'amour infini par les philosophes. Donc voilà, si. Mais l'effet du tableau déjà produit une distance agressive qui est ressentie comme une attaque, comme de la violence, contre une partie qui est plutôt présente dans la trajectoire des philosophes au début de leur carrière. C'est-à-dire, les philosophes commencent à se faire philosophes en faisant les commentaires d'un philosophe et on choisit son champion dans l'histoire de la pensée au début de la carrière. C'est plutôt l'amour du texte qui prend les privilèges. Donc voilà, 5 minutes, très vite, je dirais, il y a une histoire à reconstruire. Premièrement, le rôle de la culture classique dans la formation des philosophes en France, son importance dans les sciences sociales, c'est-à-dire les commentaires d'Oedipe depuis Jean-Pierre Bernard et Claude Lévi-Strauss, ont été fondamentales et dans le débat intellectuel français. Donc il y a une histoire spécifique qui a fait que ces gens-là soient instruits et se soient intéressés à la culture ancienne, qui n'étaient pas, qui ne sont pas ailleurs. Et il y a des innovations intellectuelles assez importantes liées au travail historique de l'École de Paris. Par exemple, on trouve en 1964 un compte rendu très élogieux dans la revue L'Homme de Louvre Clistel l'Athénien, signé par Pierre Bourdieu, où il dit: chez Clistel l'Athénien, le livre de Pierre Lévesque et Pierre Vidal-Naquet, il y a voilà une formulation de ce qu'on pouvait appeler homologie de position, une chose que Bourdieu utiliserait après beaucoup. Et donc voilà, il y a des apports spécifiques liés à la culture ancienne qui font que l'intérêt par la démocratie athénienne se soit imposé spécifiquement à certains philosophes. Et il y a aussi des formes spécifiques d'institutionnalisation grâce au faire valoir d'un type légitime de savoir. Par exemple, c'est pas parfois un hasard si Castoriadis a commencé à se concentrer dans la démocratie ancienne et a abandonné l'étude de l'autogestion ouvrière au moment où il se faisait son institutionnalisation à l'école des hautes études en sciences sociales. Ce qui ne veut dire rien sur la qualité de travail spécifique de Castoriadis. C'est-à-dire, il y a des processus d'institutionnalisation spécifiques. On pourrait aussi se demander, ce qui disait Jacques Toncelot de Michel Foucault, pourquoi il est tourné chez les Grecs, étant donné qu'il ne voulait pas continuer à se confronter à l'audience qu'il avait gagnée, Foucault, dans les années 70, et qui se trouvait assez bouleversé après les cours que Foucault avait fait sur le néolibéralisme et sur le libéralisme. Donc, aller au grec chez Foucault, c'est changer d'audience et ne pas rentrer dans des sujets trop brûlants du point de vue politique. Et voilà, expliquer le social par le social, je finis très vite. Je dirais qu'il y a un modèle qui a été proposé par contre les formes d'argumentation métaphysique où la qualité d'un texte est en rapport avec la qualité d'auteur dont il fait les commentaires. C'est un modèle qui vient d'un philosophe et qui a été explicité par Bourdieu dans Méditation pascalienne. C'est le modèle de Spinoza, du traité théologico-politique, où il dit pour faire une science double, il faut faire trois choses, ou il faut un travail de description de trois choses. Premièrement, l'expérience sociale des individus. Deuxièmement, le modèle discursif que les individus ont choisi, les thèmes, etc. Troisièmement, les gens qui ont introduit ces individus dans les canons. Spinoza lui disait pour les textes religieux, et dans l'explication d'un travail d'un philosophe, on peut considérer qu'un principe d'expliquer le social par le social, c'est de tirer un disque au fond sur comment l'expérience sociale des individus peut marquer son intérêt ou pas pour un certain thème. Deuxièmement, pourquoi ils ont choisi certains sujets, un modèle discursif pour les traiter, des formes spécifiques d'aller-retour entre les présentes et l'Antiquité très particulière, et comment ils sont rentrés eux-mêmes dans une industrie, dans une usine de commentaires qui fait que, par exemple, ils sont devenus dans ces commentaires du monde ancien et revalorisés comme philosophes. Et je lisais avant de venir un texte assez brillant sur les rapports de Foucault à l'éthique ancienne. La personne qui faisait le texte disait voilà, ça ne fonctionne pas dans la lecture qu'il fait de Platon, chez les stoïciens ça fonctionne encore moins, mais il est raté les vraies questions de poser ces demandes à Foucault, parce que Foucault est extraterritorial. C'est-à-dire, à un vrai philosophe, on ne lui demande pas ce qu'on demande à un thésard. Il peut faire avec le texte ce qu'il peut faire. Ce qui est quelque chose qui est très particulier dans la culture philosophique. Quand on est un philosophe, on est extraterritorial, même par rapport à la propre histoire de la philosophie. Il est toujours ailleurs. et qui est sorti de l'industrie des commentateurs de ces trois des penseurs. Et je crois que j'ai consommé mon temps. Merci beaucoup.